Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc, l'émission s'appelle « Regarde ailleurs ». L'idée de cette émission, c'est de donner la parole à des voyageurs, des écrivains, des réalisateurs, des photographes. « Regarde ailleurs », donc vraiment cette envie d'élargir sa vision sur le monde à travers les différences culturelles, à travers les différents peuples du monde. Toi, Maurice, je te rencontre ici sur un festival qui s'appelle le Festival du Grand Bivouac. Donc, Maurice Rebex, tu es intervenu hier, tu présentes un bouquin, « L'esprit ensauvagé », dont on parlera dans cette émission. Mais ce qui va d'abord m'intéresser, c'est toi, c'est ton itinéraire, c'est ton parcours. Donc tu es français d'origine, mais j'imagine que tu as passé pas mal de temps sur les routes du monde, notamment à la rencontre des peuples racines du côté des États-Unis. Mais bon, voilà, la parole à toi. Dis-moi un petit peu ton itinéraire de vie et ce qui t'a amené à t'intéresser à ce qui se passe au-delà de nos frontières.
Le voyage, c'est une vieille lubie de jeunesse. C'est une envie de jeunesse. C'est au-delà du voyage, une forme d'aventure à ma mesure. Et donc le voyage, ça commence très tôt dès ma jeunesse, et puis au voyage se mêle assez facilement et rapidement la photographie, le goût de l'image, la photographie, mon travail de monteur, de documentaire, parfois lié à la montagne, à l'escalade, durant des années où j'ai une forme de compagnonnage avec Patrick Edlinger, qu'on ne présente plus auprès de ceux qui aiment le rocher et la montagne. Et puis, ces voyages m'amènent à vivre au Canada, où j'ai mon coup de foudre pour le monde indien en 1981, lors d'un séjour chez les Inuits, qu'à l'époque on appelait encore les montagnais, et où là je découvre un monde, un autre monde, et une autre façon d'être au monde. Et la dignité et l'élégance de ceux à qui on a tout pris, mais à qui il reste cette force suprême qui est l'humour. Et donc la plus haute forme d'humour, non pas persiflée sur les autres, comme j'entends faire parfois dans nos contrées, peut-être trop souvent, mais rire de soi. Et là, je découvre un monde et qui me plaît. Peut-être répond-il aussi à cette soif que nous avons tous, et que rien de matériel n'étanche, cette soif qui nous fait pressentir qu'il y a quelque chose d'un peu plus grand que nous-mêmes dans l'univers, peut-être même une intelligence à l'œuvre. Alors toutes ces choses-là, je les pressens, je les ressens, je les découvre, et j'en suis instruit auprès de différentes nations, de différentes cultures, dans les îles du Pacifique. Et puis ça s'ancre pour moi dans le Dakota du Sud auprès des Lakota, qu'on appelait les Sioux et qu'on appelle plus justement dorénavant les Lakota, Dakota, Nakota. Et alors ça devient maintenant, le temps passant malheureusement trop vite, ça devient un compagnonnage de plus de 25 ans dans des réserves où je n'ai jamais vraiment littéralement vécu, mais où j'ai accumulé des séjours prolongés, la plupart du temps l'été et parfois l'hiver, et au sein desquels, dorénavant, j'ai fait ma place.
Maurice, donc avant d'aller plus loin et de parler des Sioux, des Lakota, des Dakota, les termes que je n'ai pas forcément retenus, les Premières Nations, tu me disais donc le voyage, une lubie de jeunesse, tu es parti dans les années, début des années 80. Est-ce que tu t'intéressais déjà aux Premières Nations? Est-ce que tu étais un lecteur de livres sur ce qui se passait, sur ces peuples natifs, ou pas du tout? Tu les as vraiment découverts lors d'un voyage?
Alors c'est avant les années 80, parce que c'est dès les années 70. Mes premiers voyages, c'est vers l'Asie. Et alors l'intérêt pour l'Indien d'Amérique et la figure de l'Indien d'Amérique, elle est liée à mon enfance, puisque moi je grandis dans une France où les petits garçons de mon âge continuent de consommer force western. Et alors, sans doute qu'on les décode à notre façon, parce qu'en sortant du western, personne veut faire partie de la cavalerie, tout le monde veut être indien. Et donc, on est des indiens au bord de la rivière, les traces de chiens deviennent un ours qui est passé. On nage la nage indienne, celle où on fait pas de bruit. Et voilà, on porte ce rêve d'enfant qui fait que des années plus tard, un de mes amis, Tim Waprah Gleshka, Spotted Warbonnet, me demande un jour au volant de son pick-up, « What brings you here ? Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Alors je lui parle de mon intérêt de photographe, etc. Mais je suis obligé de lui faire l'aveu de ses rêves d'enfant. Et je le fais en ayant peur d'être un petit peu ridicule à ses yeux, et je réalise que pas du tout. Parce qu'on est là avec des représentants de culture et d'une civilisation au sein de laquelle le rêve des enfants est un cap pour le destin à mener, pour la vie qu'on va mener. Alors que nous, quand on passe de l'enfance à l'âge adulte, c'est l'âge où on nous dit « faut pas rêver ». Faut pas rêver, ne rêvons pas. Les doux rêveurs, etc. Cette dépréciation du rêve dans nos sociétés, alors que le rêve est central pour dire de quoi notre vie va être faite dans ces cultures. Voilà, ça se passe comme ça.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
C'est vrai que chez nous, on a tendance à vouloir nous mettre dans une case pour entrer dans un système. Et on oublie de savoir qui on est vraiment et ce qu'on veut vraiment. Et c'est vrai, tu as tout à fait raison, ces rêves d'enfant, ben, on les oublie pour pouvoir coller à une pression sociale qui souvent nous met en avant le système économique tel qu'on connaît. Les Amérindiens, c'est vrai que, ben, enfant, je crois qu'on a tous rêvé, on a tous joué aux Indiens, aux cow-boys dans la forêt, fait des cabanes. J'ai très peu de souvenirs, mais j'ai cette image, alors dis-moi si c'est vrai ou pas, que j'avais dû voir dans une bande dessinée à l'époque, où, toujours dans cette notion d'enfance, c'est on choisit son prénom quand on se sent prêt à passer une étape, à travers un rite initiatique. Est-ce que c'est vrai, cette notion de changer son nom en fonction des épreuves de la vie?
En fin de compte, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a peu de... Il y a peu de pratiques individualistes de moi, je. Donc moi, je me choisis mon nom. Non, on arrive à... On traverse des chapitres de vie où ceux qui sont en fonction de... Ceux qui ont le statut pour cette fonction peuvent, si on leur demande ou s'ils le décident, rêver un nom pour toi. Et là aussi, il s'agit de rêver un nom. Pas de décider un nom, ni de le choisir, mais de le rêver. C'est-à-dire se le faire murmurer par l'univers tout entier. J'ai connu un homme médecine, j'étais avec lui à la fin d'un repas, et soudain il regarde sa montre et il se lève, il dit « Oh là, il faut que j'aille faire une sieste, il faut que je rêve un nom pour tout à l'heure ». Il avait une cérémonie du don du nom, il lui fallait aller rêver ce nom. Et donc on reçoit, mais oui, on porte un nom qui nous dit lui aussi de quoi notre vie a été faite ou va être faite, ou quels sont les marqueurs de notre destin. Et dans les temps guerriers où les Sioux ont acquis leur réputation de farouches résistants, et j'utilise pas le mot résistance facilement. Je le vois très dévoyé par des gens qui se prétendent résistants parce qu'ils lèvent le poing devant une caméra. C'est un petit peu plus, ça requiert un petit peu plus d'engagement. Mais là, quand même, dans le cas de ces peuples, de ces nations souveraines encore aujourd'hui, on peut parler de résistance. Et donc c'est là aussi que certains noms sont gagnés, dans certains épisodes guerriers. Alors j'ai des amis indiens qui s'appellent Kill Straight, tue raide, ou Kills in Water, tue dans l'eau. Alors on se doute qu'un de ses ancêtres, lors d'un épisode particulier, ça s'est passé dans la rivière.
Je veux bien qu'on revienne avec toi, Maurice, sur l'histoire des Premières Nations. Si tu reviennes un peu historiquement, donc l'homme occidental arrive aux États-Unis. Donc le nord du pays est peuplé par différentes nations, avec j'imagine différentes traditions, différentes langues, différentes cultures. Donc si tu peux nous revenir un petit peu, on est quoi ? On est au 15e siècle ?
Alors ça, c'est très important. 1492, les Indiens découvrent Christophe Colomb, perdu sur une plage. Et c'est grâce à eux qu'il survit, comme en atteste son journal de bord.
Donc là, quand on parle des Indiens, c'est pas les Amérindiens du nord des États-Unis, c'est vraiment, je crois qu'il arrive au sud, Christophe Colomb, non ?
Alors il arrive à ce qui est aujourd'hui Saint-Domingue, donc il est en contact avec les Arawaks, selon ses dires, les dires de son propre journal de bord, son cordio, paraissent en bonne santé et partagent avec lui ont des comportements pacifiques à son égard, ne connaissent pas les armes de l'Occident au point que prenant un sabre il se coupe la main. Et voilà, et tous ces gens qui l'accueillent, qui vont lui permettre de survivre et de pouvoir retourner clamer la découverte chez ses sponsors de l'époque, la cour d'Espagne, les lingots d'or qu'ils convoitent, eh bien, ils vont disparaître jusqu'au dernier, dans les temps qui suivront. Ça aura été l'exercice de gratitude à leur égard, va consister à les exterminer jusqu'au dernier. Donc là, on parle d'un épisode historique. Aujourd'hui, on critique le wokisme au principe que les excès, etc. Mais il faut savoir que si on remet les choses dans leur contexte, Christophe Colomb est un individu peu recommandable. Pourquoi ? Parce qu'à son époque, il y a des gens qui ne pensent pas comme lui.
Presque un des premiers génocides de l'histoire.
Ah, c'est plus qu'un génocide. Pour nombre d'Indiens souhaitent qu'on accorde à ce processus historique le nom qu'il convient, c'est-à-dire un holocauste. Puisque aujourd'hui, les historiens, les chercheurs... Les archéologues s'accordent tous à augmenter de plus en plus. On réalise que la population nord-américaine précolombienne, c'est autour de 30 millions d'habitants du continent de la tortue, avant que l'homme blanc décide de faire comme il fait souvent, c'est-à-dire de donner à un continent tout entier le nom d'un des siens, Amerigo Vespucci. Et de ces 30 millions d'individus, à la fin du 19e siècle, il ne reste que 300 000 têtes, pour parler en termes de cheptel, comme l'homme blanc aime bien faire, puisqu'aujourd'hui on demande aux Indiens d'avoir une proportion de sang suffisant pour pouvoir être considéré comme indien. Il faut un 16e de sang indien pour être indien. Et bien voilà, de 30 millions à 300 000.
En 400 ans.
Et le plus grand fléau... Et le plus grand fléau, ça n'est pas le canon, ni la baïonnette. Le plus grand fléau, c'est quand l'homme blanc arrive et qu'il éternue. Et là, ça décime des villages entiers, et des populations entières, et des nations entières.
Donc en 1492, Christophe Colomb arrive aux Amériques. Donc tu me parlais des Arawaks hein, qui le recueillent sur l'île de Saint-Domingue. Mais à ce moment-là, donc, il y avait, j'imagine, une multitude de peuples de Premières Nations différentes, avec des langues, des traditions, des coutumes différentes. Comment s'est passée l'histoire ? Donc Christophe Colomb arrive et ensuite il retourne en Espagne. Et après ?
Mais après, Eldorado. Après, lançons-nous à la conquête, puisque c'est ce que nous faisons de mieux, nous, les Occidentaux, judéo-chrétiens, pré-industriels. La conquête. Ici, à Albertville, je vois, nous sommes entourés de sommets et on part à la conquête des sommets aussi. Et quiconque a un peu parcouru la montagne, quiconque a connu l'orage en montagne, les cheveux dressés sur la tête et le piolet qui grésille, sait très bien qu'à ce moment-là, on est un petit peu moins conquérant, parce qu'on est remis à notre juste dimension. La montagne qui est en train de descendre vers nous, là, personne ne la voit descendre, parce qu'il faut juste lui donner quelques dizaines de millions d'années pour qu'elle descende. Et nous, en deux jours, deux, trois jours d'ascension dans sa face, nord ou sud, on va la conquérir. Bon, amusant. Mais ce que tu évoques, c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a une très grande diversité de populations. Plus de 500 nations en Amérique du Nord. Et donc des grands ensembles linguistiques. Les Indiens de la forêt, autour des lacs et des forêts de l'Est, les Indiens des plaines, les fameux cavaliers des plaines dont font partie les Lakota, le peuple du Tipi. Et puis, plus au sud, les Dinés, qu'on appelait avant les Navajos, les Apaches, et puis sur les côtes du Pacifique, les Chumashes, les peuples pour qui il n'est plus tant question d'aigles et de bisons que de dauphins et de goélands. Hein, leur lien avec le... Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans cette grande diversité de cultures, il y a le tronc commun. Il y a la racine même, et qui est notre racine à toutes et tous, qu'on peut résumer en la nommant l'animisme. La plus vieille religion du monde, celle de Lascaux, celle sans laquelle on ne comprend pas Lascaux. Quand les hommes accordent à tout ce qui vit un esprit, comme ils se l'accordent à eux-mêmes, avant qu'ils cessent ça pour considérer qu'eux sont intelligents, ils sont les seuls détenteurs de l'intelligence et ils sont faits à l'image de Dieu, ce qui implique que rien d'autre n'est fait à l'image de Dieu que eux-mêmes. Et c'est là que, passant de la jouissance d'appartenir à quelque chose, on en vient à la perversité de posséder ce qui nous entoure. Et quand on passe de la mentalité de ceux qui savent appartenir à quelque chose, à la mentalité de... Quand on passe du plaisir d'appartenir à quelque chose, à la folie du désir de la propriété de quelque chose, on change, on n'est plus la même femme ou on n'est plus le même homme. Et je dis on n'est plus la même femme ou on n'est plus le même homme parce qu'une façon très illustrative de dire qui nous sommes la civilisation qui, pour parler de l'humanité tout entière, dit l'homme, alors que la majorité des hommes sont des femmes. Voilà qui nous sommes aussi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
C'est incroyable, on découvre un nouveau continent, un nouveau peuple, l'histoire se répète, plutôt que d'être dans la complémentarité, de se dire waouh, extraordinaire, nous on a développé sur notre continent ses croyances et ses cultures, vous sur votre continent vous avez développé un autre système de pensée, de croyances, et au lieu d'arriver à puiser des ressources dans la culture de l'autre, on va être là pour l'anéantir et l'écraser, qu'est-ce qui se passe ?
Alors ça c'est très très intéressant. D'abord, il est fort possible que des Européens aient atteint le continent nord-américain, c'est même établi, avant Colomb. Les Vikings notamment, ou Labrador, et sans doute les Basques, les baleiniers basques. Simplement, cela n'était pas animé, il n'était pas sponsorisé par une cour européenne en quête de domination, de conquête, de territoires nouveaux, de soumission, ce qu'on appelle la colonisation, dont le synonyme est soumission, partout. Coloniser partout, c'est soumettre. Et donc, c'est très intéressant ce que tu évoques, parce que tu évoques l'autre scénario possible. Nous vivons dans des temps où le « c'est comme ça » est en train de se déliter un peu. On nous a fourgué du « c'est comme ça ». On nous a dit « l'histoire de l'humanité, c'est la guerre de tous contre tous ». Et on a gobé. On nous a dit... Enfin, toutes sortes de vérités préétablies comme ça qu'il faut savoir remettre en question pour réécrire le monde, réécrire l'histoire de demain en sachant relire celle d'hier. Et donc, il y avait d'autres scénarios possibles. D'autant que l'homme blanc est génial. Quand le bâton tonnerre, le fusil arrive chez les Inuits du Groenland, c'est une bénédiction, c'est un miracle. Soudain, on repousse la famine. On n'est plus à affûter son coutelas pour essayer de trouver un ours blanc dans les bras duquel on va se jeter en tentant de lui couper la carotide avant d'être broyé par lui pour que sa famille puisse se nourrir. Ensuite, on est à distance avec un bâton tonnerre qui change tout. Donc l'homme blanc, il est génial, il a ce génie de la technologie. Pourquoi le nier ? Mais j'ai connu un homme médecine Lakota qui disait ça, il disait « l'homme blanc, il est génial ». Mais l'homme blanc est fou, c'est-à-dire il fait de sa technologie un usage déraisonnable. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, ce que ces peuples, sans les parer de toutes les vertus, c'est ridicule D'ailleurs, on a enfermé Rousseau dans l'idée du bon sauvage. C'est beaucoup plus subtil que ça, Rousseau. C'est beaucoup plus subtil, mais c'est un questionnement sur qui sommes-nous, quelle est notre vraie nature. Eh bien, ce questionnement, il est toujours d'actualité, sans doute plus que jamais, au moment où on commence à pressentir qu'on pourrait arriver dans des temps où, quand on tourne le robinet, l'eau cesse de couler entre 14h et 16h, ou peut-être on veut allumer la télé. Ah ben oui, mais là, c'est la tranche horaire où il n'y a plus de jus dans les fils. Bon, hein. C'est une période assez favorable dans un sens, parce qu'elle nous amène au trouble, qui lui-même génère un petit peu d'inquiétude, qui elle-même favorise la perte d'une arrogance, d'une sûreté, d'une certitude, le progrès et de nos superstitions. Parce qu'on considère que les sauvages sont des superstitieuses, parce qu'on oublie de voir les nôtres. Les grandes superstitions de l'homme blanc, par exemple le progrès, la superstition du progrès. Non pas que je nie qu'il y ait des progrès. Je suis un survivant du cancer. Je serais très malvenu de mal parler de la technologie qui permet aujourd'hui de passer un scanner ou des miracles de la chirurgie moderne, etc. Mais la notion même de progrès, le fait de croire que le progrès c'est sans fin, puis voilà, l'avenir radieux qui va nous libérer, etc. Bon, ben là on voit que le pendule est en train peut-être de balancer dans l'autre sens. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces populations, un peu à la façon des lettres persanes de Montesquieu, le même procédé, nous amènent le regard de l'autre sur nous-mêmes. Et rien ne vaut ce regard pour dire qui nous sommes. J'utilise parfois cette image. On s'apprêtait à éradiquer des centaines d'hectares de forêts guyanaises, nos Indiens à nous, pour y trouver de l'or, parce qu'on avait besoin d'or. Et après tout, pourquoi pas ? Moi-même, dans mon téléphone, posé sur la table, là, il y a bien une puce en or, donc je suis un des premiers à en utiliser, après tout. Mais pourquoi aller déforester la Guyane quand il suffit de prendre le métro à Paris ? On descend à Palais-Royal, on marche un peu, puis quand on arrive devant la bonne porte cochère où il y a écrit Banque de France, on sonne à la porte, et puis on leur dit « Voilà, parmi les centaines de tonnes d'or stockées au 7e sous-sol, il nous en faut 80, rien du tout par rapport à la... » Je crois que c'est 2400 tonnes. Simplement, on ne sait plus pourquoi. Alors on va nous dire, ah mais non, mais ça on thésaurise, c'est le trésor de l'armée. Il est là, il dort, tout ça est virtuel en fin de compte.
Tu disais, c'est grâce au regard de l'autre qu'on apprend à voir ses propres incohérences et ses propres déviances. Je veux bien que tu partages avec nous peut-être quelques sagesses amérindiennes ou une histoire amérindienne qui, toi, dans ton parcours, t'a marqué ou t'a inspiré.
Il faut faire très attention à nos vieux réflexes. Ainsi, vois-tu, je contribue par mon ouvrage à ce qu'on tende l'oreille au peuple racine, anciennement peuple premier, anciennement peuple primitif, anciennement les sauvages. Parce que notre vocabulaire évolue au fil de notre compréhension et de notre sentiment de culpabilité à leur égard. Et en même temps, il faut qu'on fasse très attention parce qu'on est les consommateurs, on est ceux qui poussons notre caddie partout, en permanence. Et donc très vite, les peuples racines, ça pourrait devenir très hype, très tendance. Ah, les merveilleux Indiens. Et puis ce qui se passe au bout d'un moment, c'est qu'on les voit tels qu'on a envie qu'ils soient, au lieu de les regarder tels qu'ils sont. Et puis on retombe dans l'horrible poison du stéréotype. Et puis en fin de compte, on les désincarne. Et puis au bout d'un moment, on a bien consommé le truc. Donc on fait ce qu'on fait d'habitude. Après avoir consommé, on jette et on passe à autre chose. Alors la vraie bonne sagesse indienne, c'est pas le type stoïque, enveloppé d'une couverture au sommet d'une colline, à regarder le soleil se coucher pour dispenser une sagesse plus ou moins mièvre devant laquelle on s'extasierait, alors qu'un berger des Hautes-Alpes peut dispenser exactement la même sagesse, et pour les mêmes raisons. La vraie bonne sagesse indienne, on la trouve dans les mots de Oren Lyons, qui est un chef de la nation Onondaga, un chef iroquois. Et c'est un porte-parole intertribal, c'est un porte-parole des siens. On sait que la Confédération iroquoise influence Washington quand il écrit la Constitution américaine. Enfin, on le sait ou on ne le sait pas toujours. Et que donc la Constitution américaine est directement inspirée des modes de gouvernance de la Confédération iroquoise. Les Haudenosaunee. Les Haudenosaunee. Et donc Oren Lyons, c'est un porte-parole de son peuple qui est éminent et qui est reçu dans des conclaves importants, en Assemblée Générale des Nations Unies par exemple, où il s'est déjà exprimé à plusieurs reprises. Et puis à Davos, le club des plus que plus. Les gens à la tête de compagnies multinationales, à la tête des États, des chefs d'État, etc. Alors quand Oren Lyons s'exprime à Davos, il explique qu'à la fin de ses conférences, il y a toujours des hommes d'État ou des chefs d'entreprise ou des femmes de gouvernement pour venir lui dire « Mais chef, vous les Iroquois, vous avez des prophéties anciennes, vous pourriez pas en partager une avec nous ?» Et alors Oren Lyons répond et leur dit « Si, il est vrai que nous sommes les détenteurs de vieilles prophéties. Lui est membre du clan. Ah, soudain ça m'échappe, donc peut-être ne dois-je pas le révéler. Donc je ne le mentionne pas. Mais en tout cas, il appartient à une communauté traditionnelle qui perpétue des rites ancestraux, des chants immémoriaux et qui détient des objets. » Parfois qui restent emballés dans leur peau depuis des décennies sans que jamais personne ait porté les yeux sur ces objets, sur ces instruments de connexion, de voyance. Et donc Oren Lyons leur dit, écoutez, oui, nous sommes les détenteurs de nombreuses prophéties anciennes, mais à la place je vais vous en faire une autre. Je reviendrai, voilà ma prophétie, je reviendrai l'année prochaine et rien n'aura changé. Et donc, dans le sourire que ça provoque chez toi, il y a aussi le cœur de ce qui fait le monde indigène, cette formidable capacité de sourire des choses, et en premier lieu, parfois, de son triste dénuement. Et ce qu'il faut peut-être retenir le plus de ces populations, pour notre devenir à nous, ça tient en un mot, ça s'appelle le courage. Le courage d'affronter la plus grande adversité historique que les populations aient jamais affrontée. Et de le faire avec la dignité des... Jack Kerouac a écrit un livre qui s'appelait « The Beautiful Losers », les perdants magnifiques. Eh bien, ceux qu'on croyait les perdants sont en train de nous regarder avec un petit sourire au coin qui se dessine de plus en plus en réalisant qu'on est en train de tout perdre, de notre arrogance en tout cas. Et donc ce courage, eh bien nous allons être soumis au même test que nous leur avons imposé, le même test historique. Nous allons savoir de quel bois nous nous chauffons. Nous allons savoir quelle est notre trempe. Et elle devra être collective. Nous allons aussi apprendre si tout ce qui nous divise aujourd'hui, tous les termes avec lesquels on dénigre l'autre pour ses opinions, pour son genre, pour que sais-je, pour son identité, ce mot incroyable, eh bien, on va savoir si nous sommes capables du courage d'être unis. Si au moment d'avoir une relation plus respectueuse avec l'eau, nous pouvons nous mettre d'accord là-dessus. Ou si nous perpétuons les mêmes désunions, le même goût de la controverse, de l'acrimonie, de la véhémence, de la certitude de ses opinions face à celles des autres, etc. etc. Ça va être le grand test pour nos vieux pays. Et donc, c'est un moment qu'il faut... Il ne faut pas le redouter, mais il faut s'y préparer et sortir par le haut.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc mon livre s'intitule « L'esprit ensauvagé », il est paru chez Albin Michel, avec comme sous-titre « À l'écoute des peuples premiers pour une autre façon d'être au monde ». Oui, mais c'est ce qu'on vient d'évoquer tout au long de cette conversation qui achève, et que je te remercie d'avoir lancé entre nous. C'est une invitation à être, très nettement, à être un petit peu moins civilisé, un peu plus ensauvagé, un petit peu moins intelligent et un peu plus sage, un petit peu moins dans l'affirmation et un petit peu plus dans le questionnement, un petit peu moins coupé de tout et un peu plus dans l'appartenance, et réaliser que en adoptant ces petites réadaptations, on découvre aussi des bonheurs oubliés. Ici, entendre cet oiseau chanter au-dessus de nous, c'est déjà pas mal. mais être capable, du coup, avant de quitter ce petit square, de tendre la main vers lui pour lui adresser un remerciement et de lui souhaiter une longue et belle vie avec l'hiver qui vient et qui pourrait être un peu rigoureux pour lui, etc. C'est un truc d'enfant, bien entendu, c'est un truc d'enfant, mais c'est surtout le truc des adultes qui n'ont jamais rompu avec l'enfance. Parce qu'ils savent que la vie est un continuum et que dans l'enfance, c'est le creuset. Et que nous vivons dans ces sociétés où il faut être sérieux. Seulement, aux vieux briscards comme moi, on ne la fait pas parce que maintenant, je le sais très bien ce que c'est les sérieux. Je les ai vus à l'œuvre, ça fait un moment, je les écoute parler avec tout ce qu'ils essayent de me vendre comme idée du grand soir au lendemain qui chante. Et je sais très bien ce que sont les sérieux. Les sérieux, ce sont ceux qui prennent leur certitude pour des vérités.
Maurice, merci. Merci à toi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Merci à tous pour votre écoute. Le podcast s'appelle Regarde ailleurs et donne la parole à ceux que je rencontre sur mon chemin de photographe voyageur, ceux que j'aime interviewer, ceux qui pour moi sont inspirants, partant de l'idée qu'une personne, que le parcours de vie d'une personne peut en inspirer beaucoup d'autres. J'espère que cette émission vous aura plu. N'hésitez pas à en retrouver d'autres sur toutes les plateformes de streaming en tapant Regarde ailleurs.